RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Alors vous l'avez remarqué, on ne cesse de nous abreuver de messages concernant notre santé. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut avoir plusieurs éjaculations par semaine pour ne pas avoir le cancer de la prostate, il ne faut pas trop s'exposer au soleil, remarquez, en ce moment on risque pas grand chose. Enfin bref, la société s'occupe énormément de notre hygiène corporelle, en revanche, je trouve qu'on parle pas beaucoup de notre santé psychique et je vais réparer cet oubli aujourd'hui grâce à Michel Lejoyeux qui s'occupe beaucoup de notre bonne humeur. Et donc, nous allons voir comment on peut cultiver une bonne santé psychique. En tout cas, ça me semble aussi important. D'ailleurs, c'est prouvé, hein, le stress, la déprime, les mauvaises pensées ont un effet tout à fait négatif sur notre système immunitaire, donc sur notre santé. Si vous avez besoin d'un conseil particulier pour vous ou pour votre partenaire, vous êtes peut-être avec un partenaire particulièrement déprimé, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre au 3216 et Michel Lejoyeux vous donnera quelques pistes. Et puis, après 15h20, nous continuons notre semaine spéciale sportif et le sportif du jour, ce sera Franck Leboeuf. À 2 jours du début de l'Euro, il fallait évidemment recevoir un footballeur et pas n'importe lequel. Si vous voulez profiter de sa présence pour lui poser une question, vous pouvez appeler tout de suite le 3216. Au programme également, notre fil d'Ariane nous racontera une histoire extraordinaire de miraculé. C'est Camille qui a testé pour nous un shanga érotique. Et puis, tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Lejoyeux. Bonjour.
Bonjour.
Vous portez bien votre nom, hein. Vous aimez cultiver le positivisme, si je puis dire. C'est vrai que je trouve qu'on donne beaucoup de conseils aujourd'hui pour notre santé, ce qu'il faut qu'on mange, comment il faut dormir. Mais finalement, notre santé psychique, on n'entend pas grand-chose.
Oui, on la travaille pas assez, alors que c'est exactement la santé de l'esprit, comme la santé du corps. Vous imaginez si on disait vis-à-vis de la santé du corps, je suis né ou pas de bonne santé. On dirait que c'est absurde, on sait bien qu'il y a un rythme de vie, il y a des maladies qu'on dépasse, c'est exactement pareil. Tout se passe comme si, quand on abordait le sujet de l'esprit et des émotions, on se met à raisonner en tout ou rien. Soit je vais être parfaitement heureux dans un bonheur absolu, soit je vais être malheureux. Alors que la réalité est que quelques idées simples, et c'est vraiment ça que j'essaie de faire passer, quelques idées simples vont vraiment nous permettre d'entretenir notre bonne humeur exactement comme on entretient sa bonne forme physique.
Voilà, on peut la cultiver, on peut aussi améliorer son état. C'est vrai qu'on a tendance à toujours entendre parler que quand on est du genre stressé, ben on est stressé. C'est pas vrai, on peut aussi s'organiser pour ne pas se laisser envahir par le stress.
Ah oui, c'est peut-être le domaine où il y a le moins de fatalité et de déterminisme. Le cerveau, notre neurobiologie est une machine magique. On a une machine à produire des antidépresseurs naturels. Il nous manque juste le mode d'emploi. Vous rendez compte, le cerveau produit des morphines, produit de la sérotonine qui est l'hormone de la bonne humeur. Il faut juste trouver le rythme de vie et le style de vie qui va mettre notre cerveau en position de produire tout ça.
Bon, eh ben on va vous donner plein de bons conseils et n'hésitez pas à nous rejoindre, en tout cas au 3216, c'est ce qu'a fait Karim. Bonjour Karim.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour Michel.
Bonjour Karim.
Enfin, vous voilà, êtes un optimiste.
Ah, moi toujours, oui. Moi je suis quelqu'un qui reste positif, quelle que soit la situation, de toute façon. Voilà, parce que j'ai un vécu qui fait que j'ai beaucoup souffert dans ma vie depuis tout petit. Et bon, au départ, je me posais toujours la question pourquoi mes parents, mes grands-parents me battaient et tout ci et tout ça. Et après, j'ai réussi à faire avec, j'ai fait ma vie. Et j'ai voyagé à travers le monde et j'ai toujours regardé le côté positif. Parce que je m'aperçois que les Français sont jamais satisfaits. Il pleut, il râle. Il fait chaud, il râle. Il fait froid, il râle. Il suffit que les médias annoncent une situation grave, ça y est, tout le monde.
Et c'est prouvé, je crois, Michel Lejoyeux. Si on râle, on se crée des mauvaises pensées et on s'abîme plus que. On croit sur le moment que ça nous fait du bien de râler, mais en fait, c'est pas vrai, hein.
Oui, alors, râler, c'est peut-être un petit peu compliqué. Moi, j'ai du mal à être le psy qui va vous interdire de râler. Vous voyez, nous râlons tous quand même de temps en temps dans notre vie quotidienne.
Certes, mais quand c'est systématique, oui. Et tout le temps.
Absolument. C'est dangereux. Et surtout, ce qui est dangereux, c'est quand on confond émotion et maladie. Râler, c'est quoi? Si on veut rester un tout petit peu médical, c'est ressentir une émotion désagréable. Il m'arrive quelque chose de désagréable, je râle. J'allais dire, d'une certaine manière, il ne faut pas que ce soit un style de vie, que je râle tout le temps. Mais en aucun cas, parce que je râle, parce que je suis énervé par une aspérité de ma vie, je ne suis malade. Vous voyez, un des grands dangers, c'est une sorte de perfectionnisme psychologique qui nous ferait dire une vie normale, c'est une vie où je n'aurai jamais une occasion de râler. Il y a deux extrêmes, évidemment, pas râler tout le temps, mais n'oublions pas cet extrême-là que je vois beaucoup, moi, dans ma pratique, où toute personne qui va ressentir une émotion négative un jour parce que la météo, l'actualité, enfin, on manque pas de raison de ressentir des émotions négatives, va finalement être traité comme un malade, voire même recevoir des antidépresseurs, et c'est à ce moment-là où on confond émotion et maladie, et où on rentre dans quelque chose qui va être plutôt compliqué.
Donc Karim, quel a été le déclic chez vous pour justement maintenant voir les choses de manière positive ?
Eh bien, disons que, donc je vous dis, bon, comme j'ai eu une petite enfance un petit peu perturbée, je me suis aperçu que de toute façon, les gens, systématiquement, se plaignaient. Voilà. En plus, bon, maintenant, j'ai tout changé, j'ai arrêté mon ancien métier et tout depuis plusieurs années, je vous en avais déjà parlé, je suis magnétiseur. Et quand je vais chez mes patients, je m'aperçois qu'effectivement, ils se créent leur propre maladie. Ils s'inventent des maladies qu'ils n'ont pas. Voilà. Et donc, moi, je me suis aperçu qu'en étant surpositif, quand on me demande est-ce que ça va, eh écoutez, je réponds toujours avec le sourire en disant oui, toujours. Voilà. Et les gens, parce qu'effectivement, j'ai pas besoin de. Moi, je demande jamais si ça va parce que je ne sais pas. Mais Brigitte, vous êtes calée. Je pense que vous rappelez que d'où vient cette expression ça va. Je crois que ça venait de Louis XIV, hein, il me semble.
Vous allez à la selle, tout simplement.
Voilà, exactement. Voilà. Il me semble que c'était à l'époque de Louis XIV. Bon. En plus, moi, voilà, je m'entends pas de savoir si les gens ont des problèmes intestinaux ou pas.
Mais on a oublié, dans le langage courant, on a complètement oublié l'origine de cette expression.
En tout cas, ce voilà. qu'on n'oublie pas.
Non, voilà, je prends toujours le bon côté des choses. Voilà, je vous dis, j'ai la chance d'habiter en Corse, mais c'est parce que ça a été un choix de vie. Parce qu'effectivement, bon, j'étais croisé Corse et Kabyle. Donc j'ai choisi l'opportunité de rester en France et de revenir vivre sur mon île. Voilà, il fait régulièrement beau. Ben, chez nous, c'est pareil. Dès qu'il pleut, vous voyez, chez nous, les gens, ils sont déprimés. Ils se plaignent, il pleut. Là, j'entends les gens. Il y a les inondations, il y a quand même de gros problèmes. Et ben, les gens, ils se plaignent parce qu'à un endroit, il fait trop chaud, à un endroit, il fait trop froid. Voilà, je vous dis, c'est régulier. Moi, j'ai pris ce rythme.
C'est parti pris.
De me dire, de toute façon, tout va bien. Moi, j'ai travaillé pour l'État. J'ai été blessé 13 fois dans les pays étrangers en opération. Je suis invalide de guerre et personne ne sait que je suis invalide de guerre. Voilà, parce que je le montre pas. Je circule, je roule en moto, je profite de ma vie, je fais du sport. Comme si de rien n'était, voilà. Apparemment, effectivement, je souffre. Mais
c'est intéressant ce que vous dites parce que c'était mon invité de lundi, Thérèse, qui disait que très souvent, il faut passer par des épreuves assez difficiles. Et j'imagine que quand même, vous avez traversé des choses très difficiles. Pour qu'à un moment donné, on est vraiment une force qui fait qu'on est plus, on se sent plus victime et on prend sa vie en main, quoi. Ça semble être votre cas.
Et puis, il y a toujours plus malheureux que nous. Donc, pourquoi, dès qu'on se casse un ongle, ça y est, on est complètement, c'est la fin de la vie, là. Regardez en Thaïlande, les pauvres, ils ont été inondés, ils gardent quand même le sourire. Dans tous les pays où on va, les gens, ils font avec les problèmes de météo, les problèmes de tremblement de terre, de ci, de là. Que nous, je vous dis, le moindre petit truc, ça y est, on s'affole pour n'importe quoi. En politique, on vous dit si, ça y est, les gens ils sont complètement perturbés. Non, je vous dis, voilà, effectivement, j'ai toujours gardé ce côté positif. Bon, en plus, moi, ça me sert effectivement quand j'ai mes patients pour leur remonter le moral. Et puis voilà, en leur montrant qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves que ces petits trucs, des fois personnels, où on a un petit coup de déprime, le mari s'est barré, ou des choses comme ça. Voilà, c'est bon.
Un petit coup de déprime parce que le mari s'est barré, ça se comprend quand même, Karim.
Oui, mais bon, s'il est parti, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pas la peine de garder quelqu'un.
Non, mais d'accord, mais enfin bon, tombons pas dans l'extrême non plus. Que ce soit un petit coup de déprime parce qu'on a cassé le talon de sa chaussure, je veux bien. Mais si le mari est parti, on a le droit d'être un peu déprimé. Non, rassurez-moi, Michel Lejoyeux.
C'est bon, on a le droit. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous pointez, Karim, mais je trouve que vous avez vraiment tout à fait raison, c'est le côté réflexe conditionné. C'est que des tas de gens, quand on leur dit ça va, d'ailleurs, on les connaît, ceux-là. On leur demande même pas si.
Raison,
on leur dit non, voilà. Comment ça va, ils vont immédiatement vous répondre.
On en a pour une demi-heure pour écouter
réflexe,
leur malheur.
Mal, on fait aller. Et ce qu'on apprend en psychologie, ce qu'on apprend en psychothérapie, c'est quelquefois des techniques de blocage de la pensée. Vous savez, c'est très sérieux, où on va apprendre à cesser de répondre de manière réflexe. Par exemple, Tom est, on a envie de dire Jerry après, rusé comme, on a envie de dire singe. Eh bien, ces espèces d'automatismes, on peut s'entraîner. Il y a des techniques. Moi, je les propose en consultation.
Vous avez raison, parce que parfois, il m'arrive de faire une faute de français, comme je parle beaucoup.
Vous n'en faites pas beaucoup, des fautes de français. Je n'entends pas beaucoup.
Oui, enfin, en tout cas, ça m'arrive. Et généralement, quelqu'un me le signale, et je trouve ça très bien. Et il faut un petit peu de temps. On s'en rend compte qu'on va la faire à un moment donné et on arrive à ne plus la faire. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu de concentration. Donc vous avez raison, c'est tout à fait possible.
Et on peut apprendre à déconditionner ces espèces de réponses en coups de fusil qui viennent. Et après, une fois qu'on a répondu à tout le monde qu'on allait mal, qu'on a un rôle social de celui qui va mal parce que l'économie va mal, l'actualité va mal, évidemment, on est un peu piégé là-dedans. Donc il ne faut pas hésiter, de même que certains réflexes, on arrive à s'en passer, à bloquer ce qu'on appelle les automatismes de pensée
qui sont négatifs
et qui vraiment peuvent se corriger. Oui, c'est rien qu'un réflexe qui peut se désapprendre comme d'autres s'apprennent.
Merci en tout cas Karim de ce bol de bonne humeur pour démarrer. Et nous avons Annie maintenant qui justement a besoin de vos lumières, Michel Lejoyeux. Bonjour Annie.
Bonjour Régé, bonjour Michel.
Bonjour Annie.
Donc vous n'avez pas cette joie de vivre qu'on vient d'entendre avec Karim?
Non, je l'ai perdu en fait.
Suite à quoi?
Alors j'ai divorcé à 3 ans, comme j'expliquais. Bon, mon divorce s'est très bien passé, mais l'an dernier j'ai vécu des choses difficiles sur lesquelles j'ai avancé. Décès du papa, je suis tombée sur un manipulateur pervers narcissique, mais j'avais un peu les boules parce que j'avais écouté quand même Brigitte Lahaye qui avait donné de bons conseils, que j'ai pas pu écouter, enfin j'ai écouté mais j'ai pas pu appliquer à ce moment-là. Deux cancers de mes sœurs en même temps aussi, donc j'ai avancé là-dessus. Et aujourd'hui, je me retrouve bloquée parce que professionnellement, je n'aime pas ce que je fais. C'est toxique. Et je n'arrive pas à me retourner vers quelque chose de plus positif. Je suis bloquée.
Est-ce que c'est toxique parce que vous êtes entourée de gens toxiques ou parce que c'est quelque chose que vous n'aimez pas?
C'est quelque chose que j'aime. On m'a donné une fonction. Je suis juge au prud'homme. Donc j'écoute toute la journée des personnes qui ont des litiges avec leur employeur, donc j'écoute la souffrance des gens. Par contre, je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de mon activité parce que je suis confrontée, parce qu'on n'est pas seul à décider, et je suis confrontée à des personnes toxiques qui nous mettent des bâtons dans les roues afin de rendre justice. Donc voilà, je suis bloquée là-dessus.
Oui, mais en même temps, vous pouvez faire votre travail du mieux que vous pouvez sans et tant pis si ce sont des bâtons dans les roues.
C'est compliqué parce que il y a aussi des attaques personnelles, il y a des
D'accord, donc c'est parce que vous êtes entouré de personnes toxiques, c'est pas
voilà.
D'accord.
Voilà.
Mais en même temps, vous avez traversé quand même des choses difficiles, divorce. Bon, ok, même si c'est bien passé, c'est quand même un changement de vie. Le décès de votre père, c'est un des deuils essentiels de la vie. Vos sœurs qui ont des cancers. Enfin bon, on peut comprendre qu'à un moment donné, vous ayez un petit peu perdu votre bonne humeur.
Oui, mais me connaissant, je sais que dès que j'ai un objectif, je fonce. Je sais que la difficulté ne me fait pas peur, bien au contraire. C'est comme un challenge. Là, je n'ai rien, je n'ai aucune idée, je n'ai aucune envie.
Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, Annie, et je ne me permettrai pas de vous donner, j'allais dire, un avis comme ça, médical, rapide, qui serait évidemment un petit peu faux, mais il y a quand même vous savez, on est à l'époque de la détox, on enlève les aliments toxiques, les polluants. Il y a deux pensées très toxiques pour la bonne humeur, et je me demande si elles ne sont pas un peu présentes chez vous. La première, c'est le perfectionnisme. C'est « je dois être parfait, je dois absolument avoir réussi complètement ce que je fais, et si je n'ai pas réussi complètement, je suis nul. Je suis même un peu plus que nul. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la culpabilité, c'est tout est de ma faute. C'est-à-dire que face aux difficultés, c'est forcément moi qui ai quelque chose à me reprocher. Vous voyez, ces deux idées toxiques, déjà on peut les entendre, les repérer et très progressivement les entendre comme des voix qui se trompent ou des voix qui ne sont éventuellement pas la vôtre. Alors, je dis pas que ça va avoir un effet magique, mais n'oublions pas que dans toute situation difficile comme celle que vous vivez, si on rajoute en plus le perfectionnisme et la culpabilité, je pense qu'on la rend plus difficile, et je pense que si vous arrivez à entendre ce que je propose d'appeler des voix étrangères, vous voyez, qui sont des voix qui se trompent, et à leur dire tu te trompes quand elles vous disent tu n'as pas fait parfaitement ton travail ou c'est de ta faute, peut-être que ça peut ouvrir quelques fenêtres.
Oui, allez-y, Annie, je vous en prie.
Vous avez très très bien décelé, hein, vraiment, il y a les deux idées, dont le perfectionnisme et la culpabilité, c'est pour ça que je suis mise à rire, donc il dit, ben tiens, il voit très bien.
Mais je crois qu'il y a une autre chose qui peut vous aider, Annie. Vous avez 43 ans, vous avez traversé des choses importantes et qui montrent à quel point, vous savez, on le dit souvent, entre 40 et 45 ans, on est à un vrai tournant de sa vie. Je pense que vous êtes à un tournant de votre vie et que peut-être il faut un peu changer vos objectifs.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression de ne pas avoir le manuel. Alors certes, il n'y en a peut-être pas.
Mais le manuel, il est à l'intérieur de vous et vous verrez clair quand vous lâcherez un peu ce qui aujourd'hui vous sentez encore obligé de tout faire bien. Quand vous lâcherez un peu ça, vous verrez plus clair. Il faut accepter de renoncer à ce que vous avez été, à ce qui a été votre vie pour trouver quelle est la vie de demain qui vous attend. Me semble-t-il.
Et puis je me permets d'insister sur ce sujet du perfectionnisme. C'est quelque chose qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit, le perfectionnisme. Il faut qu'on ait fait parfaitement nos devoirs, nos leçons, etc. Donc on l'a appris. Et ce qui apprend peut se désapprendre. Pas pour faire n'importe quoi, évidemment, mais pour que on soit un tout petit peu moins sur un mode de tension dans les défis professionnels. Vous savez, Annie, vraiment, cette tendance-là n'est pas une fatalité.
Ça va être. J'entends le message et je réécouterai en podcast l'émission comme je fais d'habitude, mais c'est vrai que désapprendre c'est compliqué parce qu'on a un mécanisme de pensée et on a beau être enfin de remise en question, on a quand même.
Mais parce que désapprendre, ça veut dire à un moment donné lâcher et se retrouver peut-être un peu dans le vide. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas et on s'accroche souvent à des schémas répétitifs, à des habitudes. C'est vrai que ça demande un tout petit peu de confiance en soi et de se dire bon, on lâche et puis on verra bien. Je pense qu'à 43 ans on peut vraiment se faire confiance et vous êtes capable de rebondir. La preuve, vous avez été capable de rire à ce que vous a dit Michel Lejoyeux. Donc moi j'ai pas de souci, il faut juste que vous osiez voilà. Et puis bon, peut-être aussi que votre perfectionnisme c'est une compensation par rapport à la tristesse qui vous a habité avec les deuils que vous avez eus. Ça, il faut aussi faire attention parfois quand on a quand on a vraiment beaucoup de peine, on nie un petit peu sa douleur et on se met dans une hyperactivité qui finalement n'est pas non plus la bonne solution, non, Michel Lejoyeux, il y a ça aussi.
Bien sûr. Et puis on se lâche pas dans le vide, hein, du jour au lendemain. On va faire des toutes petites expériences. Des tout petits moments où on va un tout petit peu dénouer cette contrainte de la culpabilité ou de toute autre fausse croyance, on va voir que c'est plutôt agréable et on va avoir envie de continuer.
Je vous propose, pour comme onde positive du jour, de visualiser un triangle. Vous comparez à un triangle formé par le cœur, l'esprit et le corps, et vous visualisez votre triangle. Est-ce qu'il est vraiment équilibré et quel est le côté du triangle qui est le moins développé, le plus développé? Puis vous essayez de compenser tout ça et vous allez peut-être être un peu plus bien dans votre peau et dans votre vie, puisque votre équilibre, votre triangle sera plus équilibré. On se retrouve dans un instant, vous pouvez continuer à réagir bien sûr au 3216.
RMC, 14h-16h, la haine, l'amour et vous. RMC.
Vous voyez une bonne femme qui gueulait l'autre jour chez l'épicier, elle disait mon mari me fait cocu. Elle dit vous avez de la chance, il me fait partout.
14h-16h, la haine, l'amour et vous.
N'empêche que c'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux.
Brigitte Lahaie.
Et oui, on ne s'en lasse pas de Coluche et on fête ses 30 ans de sa disparition. Enfin, on les fête, c'est une façon de parler, bien sûr. Et à cette occasion, j'ai le plaisir d'offrir à trois d'entre vous ce CD best-of des 30 ans de Coluche. Alors, je précise que c'est un CD qui a été fait avec vos choix à vous. C'est les auditeurs qui ont choisi leur sketch préféré. Donc, c'est un CD RMC. Coluche, le best-of. Et Michel Lejoyeux, c'est à nous de décider quel auditeur on va particulièrement offrir ce CD. Voilà.
Alors, il va être de bonne humeur pour longtemps. Là. C'est un vrai antidépresseur naturel, quoique Coluche.
Ah oui, franchement. Ouais. Et je crois que.
Puis ça ne suce pas, l'effet ne suce pas. On peut le réécouter autant de fois qu'on veut.
Même si on a des petites oreilles. On est avec Clément maintenant. Bonjour Clément.
Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Michel.
Bonjour. Vous avez 35 ans ?
Oui, tout à fait. Je vous appelle pour témoigner, puisque par rapport à votre émission du jour, moi j'ai mon histoire personnelle, donc j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi, qui est un grand prématuré, donc qui est en fauteuil roulant et handicapé également mental.
De naissance, hein, donc.
De naissance, oui, c'est un grand prématuré, il est né à 5 mois et demi. Et donc, en fait, moi, je voulais témoigner aujourd'hui, puisque, bon, j'ai eu des petits moments difficiles plus jeune et adolescent. Mais maintenant, depuis ce temps-là, donc depuis l'adolescence, c'est vraiment pour moi une force d'avoir un frère comme ça. Et tous les jours, ça me pousse à être heureux de vivre, de pouvoir marcher, respirer, d'être libre, d'aller où bon me semble. Donc,
j'ai l'impression qu'on vous perd, Clément. Vous êtes là ou vous êtes parti marcher, sans doute en plein air, voilà. Ce qu'on peut imaginer, oui, dans l'enfance, c'est toujours difficile pour un enfant de vivre avec un frère ou une sœur, d'ailleurs, hein, handicapé, parce que l'enfant handicapé prend évidemment plus d'attention de la part des parents. Hein, je suppose, Clément, c'est ce qui a dû se passer chez vous.
Oui, effectivement. Après, mes parents ont toujours fait la part des choses pour qu'on soit à égalité, mais il y a forcément une attention plus importante, déjà de par le fait qu'il est dépendant à 100% du lever au coucher, donc forcément, ça, en effet.
Mais c'est évident que ça donne une vision du monde différente. Hein. Dès le départ, vous avez su que la santé, c'était un atout, un plus, hein.
Tout à fait. Puis c'est effectivement, il y a un de vos auditeurs qui tout à l'heure qui disait effectivement les gens se plaignent souvent et tout ça. Et moi c'est vrai qu'il est vrai que sur tous les petits problèmes de la vie entre guillemets, très rapidement je les évacue parce que finalement on se rend compte que c'est pas des problèmes très très importants.
Vous savez, ce que vous dites, Clément, me fait penser à des grandes réflexions sur le bonheur. Moi, je suis toujours très impressionné quand les gens recherchent le bonheur en disant c'est pour nous quelque chose de très abstrait. Peut-être qu'on le trouvera ou pas. Pour les médecins, peut-être pour vous aussi, la première étape et la condition du bonheur, c'est déjà l'absence de maladie. Hein. C'était le philosophe chirurgien René Le Riche qui disait la vie, le bonheur, la santé, c'est la vie dans le silence des organes. C'est quand on n'a déjà pas à traîner avec soi des gènes corporels, des gènes physiques. Et au fond, la confrontation à ces difficultés-là nous renvoie à quelque chose d'assez basique. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui peut entretenir notre santé, l'absence de maladie, est déjà formidablement, formidablement heureux. Je pense aussi à une autre phrase qui dit que ce qui est magique dans la vie, c'est pas tellement ce qui nous arrive, c'est tout ce qui ne nous arrive pas et qui pourrait nous arriver. Vous voyez, au fond, on est quelquefois un peu prisonnier d'une sorte d'image trop exagérée du bonheur qui fait passer à côté de ces réalités peut-être médicales ou corporelles, quoi.
Tout à fait.
Oui, et puis vous avez vu aussi le poids que ça représente pour vos parents. On parle évidemment pour votre frère, c'est certain, la vie n'est certainement pas toujours très drôle, mais pour vos parents, c'est pas forcément non plus toujours très drôle non plus. Donc vous avez appris à relativiser, j'imagine bien.
Bah oui, puis vous voyez, là j'ai commencé un travail depuis une petite année avec une psychologue et effectivement en discutant avec elle, j'ai remarqué que finalement, en fait, dès tout petit, j'ai toujours eu un caractère très jovial, très tout va bien, très toujours souriant. Et en fait, je pense que dès tout petit, voilà, il fallait que je sois. Il n'y a pas d'autres frères et sœurs. Je pense qu'il fallait que je sois aussi moi.
Celui qui répare, oui, bien sûr.
Un petit peu, je pense.
Oui, le rôle du jovial n'est pas un mauvais rôle. On finit par y adhérer.
Hein,
il faut.
Ah oui,
y a quand même beaucoup de données aujourd'hui dans la psychologie qui montrent qu'au fond, l'extraversion, le fait d'être plutôt d'exprimer des émotions positives fait qu'on finit par les ressentir aussi. Et l'inverse est vrai. Prendre le rôle de celui qui est accablé, qui ne parle pas, qui rumine toutes les raisons qu'on a de s'accabler, et nous n'en manquons pas, finit aussi par contaminer. Pour le dire autrement, notre intimité psychique finit par ressembler à ce que nous décidons d'en exprimer.
Donc continuez comme ça. Et je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Michel Joyeux, mais on peut peut-être offrir ce CD de Coluche à Clément.
Le CD de, pardon ?
De Coluche.
Ah, bah, avec grand plaisir.
Bon, et ben vous allez le recevoir, ce best-of de Coluche. On vous l'envoie et puis comme ça vous serez encore plus de bonne humeur.
Merci beaucoup à vous, bonne émission.
Merci à vous d'avoir témoigné en tout
cas,
Clément. Merci.
Merci, au revoir.
Oui, en même temps, je crois que c'est toujours ce que je dis. On peut toujours trouver pire à côté de soi ou meilleur. Ça dépend de la manière. Enfin, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Hein. Michel Lejoyeux, on n'en sort pas.
Oui, bien sûr, mais c'est aussi la capacité à ne pas regarder sa vie comme une espèce de grand destin réussi ou raté, mais à multiplier des petites expériences, des petits moments ou agréables ou pas. Vous savez, on est vraiment sur ce sujet de l'instant présent. Est-ce qu'on est capable ou pas de déguster des instants présents positifs, ou alors est-ce qu'on est en permanence face à une sorte de guerre existentielle? Est-ce que je vais réussir ou pas le bonheur de ma vie, qui me paraît quelque chose d'assez, pour le coup, d'assez angoissant.
Oui, ça mène finalement à aller manifester sans arrêt et on voit le résultat. Bon, en tout cas, tous ces petits conseils de Michel Lejoyeux, vous les retrouvez dans ce livre « Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore hein. ». C'est aux éditions Jean-Claude Lattès, je le précise. Hein, c'est dans tout ça, c'est dans
absolument,
c'est dans presque, vos œuvres.
C'est presque aussi drôle que le disque de Coluche.
Ça peut-être pas quand même, Michel Lejoyeux. Je voudrais pas vous faire de la peine, mais... C'est pas tout à fait pareil quand même. Notre fil d'Ariane, vous avez une belle histoire à nous raconter, enfin en tout cas une histoire qui pour une fois se termine bien.
Oui, des histoires incroyables de miraculés, on en trouve un bon nombre sur le net et celle-là m'a particulièrement touchée, alors je vous la raconte aujourd'hui. C'est pendant son accouchement, une maman qui a perdu un de ses jumeaux, ça commence de manière dramatique. Oui. Mais sur ça, l'histoire se termine bien, j'ai annoncé ça dès le début. Et Kate et David Hogg, donc qui avaient mis tant de temps à avoir des enfants, ils avaient enfin la chance d'avoir des jumeaux, et c'est le malheur au moment de cet accouchement, les médecins lui annoncent cette triste nouvelle.
Alors, donc il y en a qu'un qui est
liable. Qui a survécu, et l'autre...
Vous voulez pas offrir un disque de Coluche
à cette mère?
Oui.
Vous allez voir, c'est pas nécessaire vu ce qui s'est passé ensuite. Et alors Kate, la jeune maman, a décidé de demander au médecin de lui remettre cet enfant entre les bras pour le serrer une dernière fois, et elle l'a serré très fort contre elle. Elle lui a dit toutes sortes de mots plein d'amour, en disant combien son frère avait besoin. Et c'est à peu près ça. Abracadabra, elle l'a peut-être pas dit. En tous les cas, elle l'a serré tellement fort, Brigitte, que le cœur de cet enfant s'est remis à battre. Ce cœur qui s'était arrêté. On peut appeler ça une résurrection. Je sais pas comment les médecins ont appelé ça. Personne n'a compris ce qui s'était passé. Et il y a plein de cas comme ça.
C'est incroyable. Si elle ne l'avait pas repris dans ses bras...
Non. Il aurait été mort, déclaré mort. Et peut-être que... Est-ce que... Alors, tout le monde s'interroge. Est-ce que c'est le pot à pot? Est-ce que c'est le fait de l'avoir serré comme un massage cardiaque, en fait, naturel, serré contre son cœur?
Quel est votre avis,
Michel
Joyeux,
cet enfant?
Je me sens un petit peu dépassé médicalement par le sujet. On est dans le miracle. Hein. Par définition, on est quand même dans l'exceptionnel.
Oui, bah c'est ça, c'est exactement ça. Alors ça s'est passé en 2010. Jamie et Emily, donc
d'ailleurs,
les jumeaux.
Combien de parents inversement parce qu'ils serrent trop fort leurs enfants?
Ah oui, mais ça c'est terrible.
Ouais. Donc, serrez pas trop fort quand même. Hein.
Souvent, on dit, vous savez, cette fameuse mort subite du nourrisson. On dit souvent que parfois c'est des mamans au bout du rouleau qui attrapent leur bébé exaspéré par les pleurs de leur enfant et qui étouffent l'enfant, et on fait passer ça pour des morts subites du nourrisson.
Bon, je me prononcerai pas.
Hein. Oui, n'oublions pas qu'il y a un nombre important de morts subites du nourrisson qui sont pour le coup des tragédies familiales, hein, et voilà où les parents découvrent, c'est bien une des situations de stress les plus considérables, où on va après les accompagner et où évidemment les parents ne sont responsables de rien, hein. N'oublions pas que dans l'extrême majorité des cas, c'est quand même ça.
Bon, en tous les cas, pour ces jumeaux, ce qui est certain, c'est qu'ils sont en parfaite santé aujourd'hui, tous les deux. Aucun séquelle, personne n'a expliqué ce qui a pu se passer. Peut-être qu'un amour surdéveloppé a pu faire revenir cet enfant,
on ne sait pas. Plutôt une belle histoire.
Oui, et vous en avez d'autres comme ça, notamment celle
qui
s'est passée.
On a souffert, hein, c'était dur, hein, cette histoire-là, déjà.
Oui, mais non, mais celle-là est très belle aussi, non. Au Brésil, pareil. Même constat, un bébé qu'on déclarait mort, une infirmière trouvant cet enfant, c'était pas possible, on pouvait pas l'emmener à la morgue, l'a juste déposé dans le cercueil, la grand-mère est venue se recueillir, et là, l'enfant a réouvert les yeux, le cœur s'est remis à battre. Pareil, et on trouve une multitude d'histoires comme ça,
c'est fou. En même temps, moi, je me souviens de la raison pour laquelle on appelle les croque-morts. en fait.
Oui, c'est pour croquer l'orteil du mort, pour vérifier qu'il est bien mort.
Pour être sûr qu'il est, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'autre solution que ça. Donc, on voit bien que finalement, on peut avoir l'apparence d'être mort et finalement ne pas l'être vraiment, quoi.
Tout à fait.
Bah, c'était quand même
ça mitigé. Ça se termine bien, vous l'avez dit.
Ouais, c'était quand même mitigé, vos histoires extraordinaires, Ariane. Hein. Je voudrais pas, je ne reviendrai pas sur votre côté un peu castrateur, mais là, franchement.
Je redonne vie.
C'est ça. Oui. Bon, on va se retrouver dans un instant et on donnera la parole à Pierre également qui veut réagir sur le sujet. À tout de suite.
RMC, 14h-16h, la haine, l'amour et vous. RMC.
Alors à un moment, il y avait les camps de nubisme. Alors ça, c'était bien.
14h-16h, la haine, l'amour et vous.
Ça avait un avantage, c'est quand un mec disait à une gonzesse, écoutez, je vous aime, elle pouvait toujours dire, bah oui, je vois.
Brigitte Lahaie.
Eh oui, Coluche va nous suivre tout au long de cette émission, puisque on célèbre ce best-of de Coluche, 30 ans déjà, c'est RMC qui, avec vos choix de sketch, on a fait ce CD. On donne la parole à Jeff maintenant. Bonjour Jeff.
Bonjour Brigitte, bonjour Michel.
Bonjour Jeff.
Alors vous vivez une relation... Oui, c'est mieux.
Oui, c'est la radio. Oui.
Je vous en prie. Ouais. Donc, vous vivez une relation à distance et c'est assez difficile.
Oui.
C'est assez difficile
depuis
pour
trois mois, oui. Oui, en fait, c'est la complication. Elle est que j'ai connu cette personne il y a à peu près trois mois, au mois de février. Donc, on arrive dans le quatrième mois, oui. Et c'était très intense dès le début, mais en sachant qu'elle n'est pas seule, qu'elle vit avec quelqu'un, mais qui est plutôt son bourreau qu'autre chose, quoi. Et la relation est un peu difficile parce que depuis quelque temps, elle essaye de se détacher, je pense. Parce que la semaine dernière, par exemple, elle m'a pas donné de nouvelles pendant pas mal de temps. J'ai été la voir. Et quand elle m'a vu, elle était surprise. Et je lui ai dit, je m'inquiétais. Tout simplement avec tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe. Donc, en sachant qu'elle habite à Grenoble. Donc voilà, j'ai fait un aller-retour. Moi, je suis de la région parisienne. J'ai fait un aller-retour pour aller la voir. Et puis, elle m'a dit, je recommencerai pas et tout. Et là, elle recommence à le faire, en fait. Elle recommence à m'esquiver, en sachant qu'on avait prévu de se voir demain et vendredi. Donc moi, j'ai pas pu annuler mon voyage parce que j'ai pris les billets. Et je suis censé aller la voir demain, quoi.
Et alors que vous n'avez plus de nouvelles, c'est ça?
J'ai des nouvelles partiellement.
Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas si elle a vraiment un souci pour être disponible par rapport à son compagnon ou si elle vous raconte un peu des histoires, quoi. C'est...
En fait, elle m'a dit beaucoup de choses. Elle m'a dit énormément de choses. Et de sources sûres, je sais que les sentiments sont vraiment là, quoi. Qu'elle m'aime, qu'elle tient à moi, qu'elle veut pas me perdre. Parce que officiellement, elle m'a jamais dit on arrête ou quoi que ce soit.
Excusez-moi, mais moi je suis très rationnel dans puisque je vois ça d'un œil extérieur. Ce qui tient pas, c'est que par moment elle arrive à vous voir pendant une journée et demie et elle a pas la possibilité de vous envoyer un SMS pour vous signaler quelque chose. C'est quand même un peu curieux.
Oui, parce que je pense que elle essaye de se détacher justement. Et je sais pas pourquoi elle fait ça. Et je lui ai dit que j'aimais pas quand elle fait ça. Parce que je lui ai dit que j'étais compréhensif par rapport à plein de choses, parce que je tiens à cette relation. Et qu'elle aussi, elle tient à ce qu'on se voit.
Oui, mais Jeff, excusez-moi, mais c'est pas cohérent. C'est donc qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre.
Mais peut-être, vous savez, il y a un professeur de psychologie canadien qui s'appelait Léon Testinger, qui avait écrit un livre très intéressant qui s'appelle « La dissonance cognitive ». Et dans ce livre, il avait dit que même quand on a tort, c'est difficile de changer d'avis. Parce que au moment où on change d'avis, on doit affronter ce qu'il appelait justement cette dissonance cognitive. C'est-à-dire, notre cerveau a une manière de penser. Nos émotions sont organisées d'une certaine manière. Et c'est finalement plus confortable et moins coûteux en énergie de continuer à penser la même chose. Vous savez, il a écrit ça à propos d'une secte américaine dont il avait observé le comportement, avec Mary Kick, qui était la patronne de cette secte, qui annonçait l'arrivée des extraterrestres sur la Terre. faire. Elle avait annoncé ça à ses adeptes, elle leur avait dit vendez toutes vos richesses, et puis un jour elle leur a dit, vous savez, les extraterrestres qui me parlent ont finalement changé d'avis, vous avez tout vendu, mais ils vont pas tout de suite arriver. Et ce qui avait passionné le psychologue canadien, c'est qu'aucun des adeptes n'avait remis en question son adhésion à la secte, parce qu'il était finalement plus facile de continuer dans une erreur ou dans quelque chose qui n'est pas complètement soi que de changer. Donc c'est pas facile quelquefois, même quand ce n'est pas pour son bien. Et penser à cette histoire de dissonance cognitive, c'est-à-dire que quand on change d'avis, quand on fait des choix majeurs, on affronte ses habitudes de pensée, on affronte même quelque chose d'une, je veux dire, d'une manière de fonctionner de son cerveau, vous voyez.
D'accord.
Okay. En tout cas, en l'occurrence, Jeff, oui, moi je vous conseille d'être assez prudent parce que vous êtes dans une relation qui semble-t-il, n'est pas tout à fait cohérente, quoi. Donc là, il faut essayer de. Moi, à votre place, ce que je ferais là, ce serait de ne plus vous manifester du tout et d'attendre de voir comment elle revient.
D'accord.
Peut-être. Okay. Peut-être qu'elle reviendra pas d'ailleurs, hein, mais parce que vous investissez beaucoup et vous n'avez pas un retour à la mesure de tout ce que vous donnez.
C'est ça exactement, ouais.
Donc c'est douloureux. Oui,
le pire dans tout ça, c'est que en plus de temps en temps, justement, elle m'envoie un message en me disant ouais qu'elle pense à moi, qu'elle m'embrasse, qu'elle voudrait être avec moi. C'est ça que je comprends pas.
Je suis vraiment d'accord avec ce que vous dit Brigitte, c'est-à-dire qu'au fond, il y a des gens à qui ont dit, faut que vous pensiez un petit peu plus à votre partenaire qu'à vous, si vous voulez que votre dynamique de couple fonctionne. On a envie de vous dire comme vous le dit Brigitte, c'est-à-dire au fond, pensez un petit peu à vous, à votre santé, à votre avenir, à votre santé psychique et physique. Il faut aussi que dans cette histoire, enfin, que cette histoire qui est visiblement très douloureuse pour votre compagne ne devienne pas aussi destructrice pour vous. Moi, je suis complètement d'accord.
D'accord.
Oui, parce que vous avez quand même le week-end dernier fait un effort considérable. Vous avez pris la route, vous avez été la voir, et puis.
J'ai pris le TGV, et puis demain.
Oui, enfin, qu'importe,
demain, j'ai confirmé.
Oui, mais et à l'arrivée, vous avez à peine été bien reçu, quoi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Maintenant, elle est peut-être très très malheureuse avec cet homme. Elle est peut-être complètement paumée, mais c'est de toute façon pas vous qui allez pouvoir être son infirmier ou son thérapeute. Hein. Donc d'accord. C'est à elle de prendre conscience de ce qu'elle veut. Et si vous prenez de la distance, vous verrez si elle revient ou si elle ne revient pas. Ça sera un signe de toute façon.
D'accord. De toute façon, demain, j'ai prévu d'y aller. Je vais y aller. Je vais lui faire savoir que je suis là. Elle le sait, de toute façon. Elle le sait. On en a parlé lundi. Elle m'a dit que c'était difficile pour elle qu'on se voit à Grenoble, que le 25, c'était prévu qu'elle vienne à Paris, quelques jours chez moi. Donc, demain, je vais y aller. Je vais lui faire savoir que je suis là, jusqu'à vendredi.
Mais voyez, moi, j'arrive pas à comprendre qu'une femme qui serait avec un bourreau, puisque c'était le terme que vous avez utilisé, puisse venir passer quelques jours chez vous à Paris. Ça me paraît tout à fait incompréhensible, parce que si elle est vraiment avec un homme toxique, il ne la laisse pas comme ça s'échapper quand elle veut. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, et c'est peut-être ça qui me fait vous dire de faire attention à vous. Pour pas que vous, justement, vous investissiez trop et que vous souffriez. Merci, Jeff. Pierre est avec nous. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour, Brigitte. Bonjour à votre invité.
Bonjour.
Vous avez 47 ans et donc vous êtes avec une femme qui vous a déjà demandé plusieurs fois le divorce.
Oui, tout à fait.
Donc vous n'avez pour l'instant jamais divorcé, hein, on est bien d'accord.
Non, jamais. L'avant-dernière fois, il y a 2 ans et demi, elle m'a redemandé le divorce. Au bout de quelques semaines, tout s'est arrêté. Voilà, tout est redevenu entre parenthèses normal. Il y a 5 ans, elle m'avait aussi demandé le divorce. Elle commençait à aller voir un avocat juste après le décès de son papa. Et elle était un petit peu poussée par sa mère et sa sœur. Et bon, elle avait demandé le divorce. Donc bon, bah, moi, je suis allé voir un avocat de mon côté. Et la deuxième fois, je suis revenu. J'avais la pêche parce qu'en plus, j'avais appris une bonne nouvelle. Je suis artisan et j'avais signé un gros chantier. Donc voilà, j'étais de bonne humeur. Je suis arrivé le soir, j'ai rigolé avec les enfants et elle m'a regardé, elle m'a dit c'est que t'es content de divorcer. Je dis bah non, c'est quand même toi qui demandes, donc je suis pas forcément content, mais de toute façon, faut avancer. Et le lendemain, elle m'a demandé de rester à la maison, on a discuté, elle voulait plus divorcer. Voilà. Et c'était là. Donc là, c'est la sixième fois en 12 ans, 13 ans, 11 ans. Je calcule plus, je m'en fous.
C'est vrai
donc,
que
je voulais savoir un petit peu comment réagir à tout ça. Parce que si ça se trouve, cette fois, ça ira jusqu'au bout. Ou si ça se trouve, ça n'ira pas.
Jusqu'à présent, vous avez plutôt bien géré la situation, Pierre. Vous n'avez peut-être pas besoin de nous.
Je ne sais pas si j'ai bien géré la situation.
Bah, en tout cas, elle est toujours avec vous.
Oui, mais bon, c'est surtout que c'est épuisant. Voilà, et je sais pas comment faire. Alors, si elle veut rester, si elle ne veut plus divorcer, je crois qu'encore cette fois, j'accepterai. Et puis voilà, si elle veut divorcer...
Mais Pierre, ça me fait penser un peu à ces personnes qui sans arrêt posent des ultimatums et vont pas jusqu'au bout, vous voyez, ça me fait penser un peu à ça.
Oui, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai une amie qui m'a dit un jour, elle a peut-être un petit semblant de bipolaire. Je dis oui, mais bon, c'est la mode de la bipolarité, donc tout le monde est bipolaire, tout le monde a un souci. Voilà, moi, elle me reproche plein de choses, à chaque fois ce sont jamais les mêmes parce que j'essaie de faire des efforts et à chaque fois c'est d'autres et là c'est autre chose, enfin bon, bref. Donc je sais plus comment réagir, voilà, c'était un petit peu pour ça que je vous appelais.
Il y a une psychanalyste suisse qui s'appelait Germaine Gex qui avait écrit un très beau livre qui s'appelait La névrose d'abandon et qui a décrit ce besoin d'être tout le temps garanti, c'est-à-dire ce besoin d'être sûr qu'on tient à vous et qui va tellement loin qu'à un moment, il va falloir mettre en avant une demande de rupture simplement pour être bien sûr que l'autre tient beaucoup à vous. Elle a décrit ça très joliment en disant que dans cette névrose d'abandon, il y a évidemment la peur d'être abandonné, hein, même s'il n'y a pas d'abandon réel, et il y a l'envie d'être deviné, d'être au fond d'être rassuré, y compris en mettant en péril sa relation. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont souvent des personnes qui ont plus de plaisir à s'apercevoir à un moment qu'on tient à eux qu'à véritablement vivre une relation dans la continuité.
D'accord. Ouais, mais ça c'est vrai que ça correspond un petit peu parce que tant que je lui dis un petit peu et là ça faisait plusieurs semaines que je lui disais moins parce qu'on se voyait un petit peu moins puisqu'elle était en formation et ainsi de suite et puis elle était moins attentive sur certaines choses puisqu'elle était épuisée par rapport à sa formation. Je lui ai peut-être un petit peu moins dit depuis quelques semaines qu'elle était jolie et ainsi de suite, alors que je lui disais souvent parce que j'avais remarqué que ça jouait sur son moral. Voilà. Il y a un mois j'étais le plus merveilleux, il y a un mois et demi j'étais le plus merveilleux, elle voulait finir ses vies avec moi, et là ça va bientôt faire 3 semaines, elle m'a annoncé qu'elle voulait divorcer.
Mais vous voyez, Pierre, en même temps, c'est suite à la mort de son père, c'est suite à...
C'était avant déjà. Hein.
Oui, j'entends bien. Mais c'est dès qu'elle est un petit peu plus fatiguée ou un petit peu plus déprimée, oui, justement, qu'elle va rechercher la preuve que vous l'aimez vraiment. Donc, je crois que vous avez, comme je le disais, vous avez jusqu'à présent bien suggéré la situation. J'ai un peu tendance à penser que cette fois-ci, il n'y a pas de raison que ça se passe plus mal. Hein.
Après, si on divorce, on divorcera. Mais c'est voilà, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez.
Mais voyez
réagir,
votre attitude, elle est remarquable parce que vous avez une sorte de vous avez une sorte de lâcher prise. Vous n'avez pas du tout envie de divorcer, mais si ça devait le faire, vous l'acceptez. Et c'est aussi cette sorte de neutralité bienveillante, comme si je puis me permettre, que vous avez, qui fait que elle a pas de prise finalement sur vous. Donc elle va je pense qu'elle va rester comme elle est restée les autres fois.
Parce que moi, depuis quelques jours, je discute beaucoup. Enfin, je parle tout seul. Hein, je fais un monologue parce qu'elle répond pas. Je parle avec elle. Je lui dis mais tu te rends compte qu'on va tout foutre en l'air parce que je lui dis pas tu, je lui dis on parce que je suis dedans. C'est sans doute des torts aussi. Donc je lui dis on va tout foutre en l'air. Elle est dans son truc. J'ai même plus le droit de lui tenir la main ou de la toucher, ne serait-ce que de l'effleurer en ce moment.
Oui, je pense que c'est moins ce que vous dites. D'ailleurs, vous l'avez dit très bien, vous appliquez peut-être même pas de manière volontaire, mais vous avez les bonnes techniques de communication, vous appliquez y compris une technique de communication positive. Vous voyez, quand vous dites la dernière fois, elle m'a dit qu'elle voulait divorcer, je suis rentré de bonne humeur parce que autre chose me mettait de bonne humeur. Au fond, ce dont elle a besoin, c'est certainement pas moi je serais tenté de dire qu'inconsciemment elle se rend bien compte que le divorce ou la séparation n'est pas justifié. Ce dont elle a besoin, c'est que vous continuiez à envoyer des émotions et de la communication positive ça a marché 6 fois, on peut être un peu optimiste et se dire que ça remarchera une 7e fois.
Exactement, Pierre. Et puis, tiens, pour vous donner de la bonne humeur, on va vous envoyer également ce best-of de Coluche. Comme ça, vous pourrez rentrer ce soir aussi. Enfin, peut-être pas ce soir, parce que vous l'aurez peut-être pas aujourd'hui, mais vous pourrez rentrer un soir aussi d'excellente humeur. Voilà. Allez, on se retrouve après les infos. Vous pouvez vous aussi nous appeler et puis on vous donnera un peu plus de bonne humeur encore. Et vous nous appelez au 3216, bien sûr.
RMC, 14h-16h, la L'Amour et vous.